Géopolitique.
Chantal Loureau.
Bonjour, bienvenue dans Géopolitique. Il y a 20 ans, Bachar el-Assad prenait les rênes de la Syrie. Un président par défaut, c'est son frère aîné Bassel, mort dans un accident de voiture en janvier 1994, qui avait été choisi par son père, Hafez el-Assad, pour lui succéder. 20 ans plus tard, dont 9 années de guerre civile, le lion de Damas est toujours là. Le jeune homme gauche et effacé s'est transformé en dictateur sans état d'âme, n'hésitant pas à faire mitrailler, bombarder, torturer, gazer son peuple. Bilan, près de 400 000 morts, 5,5 millions de réfugiés dans les pays voisins, 6,5 millions de déplacés internes et 85% de la population réduite à vivre sous le seuil de pauvreté. Comment Bachar el-Assad est-il devenu ce stratège machiavélique capable de se relever quand on le croyait acculé? A-t-il gagné la guerre en sacrifiant l'indépendance de la Syrie? Le président syrien est-il toujours incontournable ou est-il désormais l'otage, entre guillemets, de ses alliés russes et iraniens? Comment le clan alaouite dont il est le chef est-il parvenu à mettre la main sur toutes les richesses du pays? Quelles conséquences peuvent avoir les brouilles et les dissensions au sein de la famille Assad? La diplomatie a-t-elle encore un rôle à jouer? On en débat avec nos trois invités. Michel Duclos, bonjour.
Bonjour.
Vous avez été ambassadeur de France à Damas de 2006 à 2009. Vous êtes aujourd'hui conseiller spécial à l'Institut Montaigne. Et vous avez publié en 2019 « La longue nuit syrienne, 10 années de diplomatie impuissante » aux éditions de l'Observatoire. En ligne avec nous également Thomas Pierret, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargé de recherche à l'IREMAM, l'Institut de recherche et d'études sur les mondes arabes et musulmans. Vous êtes spécialiste de la Syrie et on vous doit un ouvrage de référence, Baas et Islam en Syrie, la dynastie Assad face aux oulémas, paru aux presses universitaires de France en 2011. Et à mes côtés en studio, Hala Kodmani, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes grand reporter au journal Libération, spécialiste du Proche-Orient, et vous avez publié en 2017 Seul dans Raqqa aux éditions Équateur. Thomas Pierret, ma première question est pour vous. Quand Bachar el-Assad est devenu président après la mort en juin 2000 de son père, Hafez, on a cru que ce jeune homme de 34 ans, réservé, timide, allait tourner la page de 30 ans de dictature. On a cru à sa volonté affichée de moderniser le pays, de le démocratiser, de lutter contre la corruption. Pourquoi s'est-on à ce point trompé?
Alors, je pense qu'il y avait une certaine naïveté qui était assez répandue à l'époque. Il faut rappeler qu'on est dans un contexte où on a sur une durée de 2 ans, hein, 99, 2000, 3 transitions biologiques au Moyen-Orient. On a le décès du roi au Maroc, celui de Jordanie, et puis le décès de Hafez el-Assad. À chaque fois, ces dirigeants autoritaires qui règnent depuis des décennies d'une main de fer sont remplacés par leur fils qui est forcément plus jeune. Et il y a cet espoir un peu naïf qu'il suffit d'être jeune et un peu plus ouvert à la modernité, puisque il faut rappeler que Bachar el-Assad a été promu auprès de l'opinion publique syrienne, notamment en tant que quelqu'un qui s'intéressait à l'informatique, à Internet. C'était le président de la société d'informatique syrienne. À l'époque, c'était évidemment très nouveau dans le contexte syrien, et il y avait cette idée que voilà, cette plus grande ouverture à la modernité se traduirait nécessairement par une orientation plus démocratique. Ça ne se fondait en réalité sur rien d'autre. C'était un raisonnement tout à fait superficiel et naïf.
Hala Kodmani, les médias occidentaux à l'époque se sont beaucoup focalisés sur l'image du couple syrien moderne, pour reprendre le mot de Thomas Pierret. Donc Bachar, ophtalmologue formé à Londres, son épouse Asma, physique de top modèle, analyste financière dans une célèbre banque, Rose du désert, Lady Di d'Orient. Comment s'est construite cette légende que vous avez démonté dans un article au joli titre « La fée devenue sorcière ».
Oui, c'est vrai que peu après son arrivée au pouvoir, ça a été accompagné. Il y a eu un accompagnement de relations publiques pour l'image de Bachar el-Assad, qui a été notamment prise en charge par sa future belle-famille à Londres. C'était une société de relations publiques britannique qui a décidé de jouer sa promotion de ce couple, et tout le monde est tombé dans le panneau, parce qu'on aime bien ça, parce que Gala aime bien ça, parce que les revues People aiment bien ces images, et une légende s'est construite, et cela bien après. Je veux dire, ça a duré juste à la veille de la guerre civile, il faut pas oublier que je crois que l'histoire de la rose du désert, le fameux article de Vogue, du magazine américain Vogue, qui interviewe Asma al-Assad, c'était en 2011, c'est paru exactement au moment où la révolution a éclaté en Syrie, où les premières victimes tombaient.
Et depuis d'ailleurs, ils ont retiré cet article.
Oui, retiré de leur site, ils ont retiré absolument.
Michel Duclos, vous avez rencontré Bachar al-Assad lorsque vous étiez en poste à Damas. Quel souvenir vous a-t-il laissé, ou je devrais peut-être dire, quel mauvais souvenir vous a-t-il laissé ?
Pour moi, à cette époque, c'était l'incarnation de la duplicité, si vous voulez, parce que je l'ai souvent rencontré en accompagnant des visiteurs étrangers, des émissaires du président Sarkozy, par exemple. Et c'est quelqu'un qui savait parfaitement tenir aux étrangers le langage qu'ils aimaient entendre. Mais vivant sur place, j'étais en mesure de voir la discordance totale entre ce qu'il racontait à ses nobles visiteurs et la réalité du pays. Donc c'est quelqu'un qui pratiquait le mensonge et la dissimulation, comme c'est souvent le cas, bien sûr, des hommes politiques ou des dirigeants tyrannique de ces pays, mais à un degré quand même assez stupéfiant.
Il s'est écoulé 6 ans entre la mort du dauphin désigné, Bassel, et l'arrivée au pouvoir de Bachar. 6 ans qui, en fait, ont permis à ce dernier de se préparer à diriger le pays, d'autant que son père l'a envoyé se faire la main, entre guillemets, au Liban, Hala Khodmani. On n'a peut-être pas assez insisté sur ces années de formation. Il n'était pas si novice que cela, finalement.
Non, il n'était pas novice. De toute façon, c'était un membre de la famille régnante. Je veux dire, on est un peu dans une monarchie. Enfin, mais bon, il était élevé dedans. Son père, son frère, etc. Bon, c'est vrai qu'il était à l'ombre de son frère pendant longtemps. Mais le moment venu, c'est vrai que ces années de formation où il était partout, il était considéré comme le dauphin, où il était courtisé par les hommes d'affaires syriens à Damas ou ailleurs, au Liban évidemment, il était vraiment le représentant, le successeur désigné. Et donc oui, même militairement, il s'est formé, parce qu'il ne l'était pas. Il n'était pas du tout militaire. Et là, il a fallu, je crois qu'il a eu, je ne sais plus quel grade militaire à ce moment-là. Et bon, il y a eu toute cette formation de 6 ans. Oui, il n'est pas arrivé comme un jeune blanc-bec à la tête de la Syrie.
Et est-ce que cette transmission héréditaire du pouvoir dans un pays censé être une république, Thomas Pierret, a heurté les Syriens à ce moment-là ou pas du tout ?
Bien sûr que beaucoup de gens ont été heurtés. En même temps, la propagande du régime avait préparé les Syriens à ce scénario depuis très longtemps. C'est-à-dire que, en fait, depuis les années 80, il y avait une propagande, notamment iconographique, qui mettait en avant les fils de Hafez al-Assad, et donc qui préparait, et je dirais de manière générale, la famille Assad d'une manière générale, c'est-à-dire que la propagande avait pris un caractère monarchique, dynastique. Donc c'était évidemment absolument pas une surprise, les Syriens avaient été préparés de très longue date. Et encore une fois, cela ne signifie pas que les gens acceptaient l'idée qu'on joue, par exemple, notamment avec la Constitution, même si c'est une habitude en Syrie, mais le fait que comme ça, en quelques jours, on puisse changer la Constitution pour permettre à Bachar el-Assad, qui était à l'époque trop jeune pour devenir président, donc on change la Constitution pour lui permettre d'accéder à ce poste. J'ai visité la Syrie quelques semaines après, et même dans ce contexte où personne ne parlait, il y a quand même quelques personnes qui m'avaient dit qu'ils trouvaient ça assez choquant.
Alors, il y a tout de même eu pendant plusieurs mois ce qu'on a appelé le printemps de Damas, et puis la parenthèse de liberté, d'ouverture démocratique s'est brutalement refermée. Qu'est-ce qui s'est passé, Thomas Pierret ? Est-ce que ce sont les caciques du régime et du parti basque qui ont dit stop, ou est-ce que c'est Bachar lui-même qui a fait marche arrière ?
Alors d'abord, je pense qu'il faut bien rappeler ce qu'est le printemps de Damas. Ce n'est pas un épisode d'ouverture démocratique, dans ce sens que le régime n'a fait aucune réforme de nature institutionnelle. Simplement, pendant environ 6 mois, le régime a cessé d'emprisonner des gens pour des activités telles que le fait de se réunir dans une salle, mettons, avec un certain nombre d'intellectuels, le fait de publier des articles d'opinion où on demande des réformes démocratiques. Voilà, ce sont des comportements qui ont été tolérés pendant 6 mois, mais le régime n'a absolument rien changé au système politique, il faut le rappeler. Il n'y a donc pas de réforme pendant le printemps de Damas. Alors, pourquoi est-ce qu'au bout de 6 mois, on se remet à arrêter les gens pour ce type d'activité? Alors, il y a eu un discours, effectivement, qui était de faire porter la responsabilité à ce qu'on appelle la vieille garde, donc notamment des compagnons de longue date de Hafez al-Assad, comme Abdelhalim Khaddam. J'ai personnellement toujours été un peu sceptique vis-à-vis de ce récit. Semble-t-il, avant même l'arrivée au pouvoir de Bachar el-Assad, il y a une lutte de clans qui est en train qui commence à se jouer au sein du régime syrien, entre, on va dire, les fils Assad, leurs cousins et d'autres figures comme Khaddam, donc le vice-président, Razi Kanaan, futur ministre de l'Intérieur, qui mourra dans des circonstances obscures en 2005. Donc il y a cette lutte de clans qui se met en place. Voilà, moi je soupçonne qu'on a voulu faire porter le chapeau à finalement ceux qui ont été les perdants de cette lutte de clans, ceux qui ont fini par être éliminés du régime, au moment de l'assassinat de Hariri par ailleurs.
Hala Khonmani, vous êtes d'accord avec cette analyse?
Oui, je crois que bon, il faut pas non plus reprendre la légende, prêter à Bachar el-Assad une sincère volonté de réforme ou d'ouverture ou de démocratisation. Oui, je pense qu'il adhérait complètement au fait que bon, il a permis une récréation pendant 6 mois où quelques intellectuels ont pu se réunir en effet dans des salons de Damas ou d'ailleurs. Mais bon, quand il a fallu siffler la fin de la récré, il n'a pas eu d'état d'âme, et je ne pense pas du tout que lui, personnellement, ait été contrarié par les vieux caciques des copains de son père, quoi.
Michel Duclos, est-ce que vous pensez que Bachar el-Assad a pu souffrir du complexe de président par défaut et qu'il aurait compensé son illégitimité, entre guillemets, se muant en tyran sanguinaire, parce que depuis 9 ans que dure la guerre, on est frappé par la barbarie du régime?
Écoutez, je ne reprendrai pas votre expression de président par défaut. Parce que, comme Thomas et Allah l'ont indiqué, c'est en réalité au contraire quelqu'un qui était parfaitement formé pour ses fonctions, qui avait été programmé pour ses fonctions. Il avait eu largement le temps d'être éduqué par son père et il était associé aux affaires. Donc quand il arrive, ce n'est pas un réformateur, ce n'est pas un homme nouveau, ce n'est pas quelqu'un qui découvre le job, c'est au contraire quelqu'un qui est parfaitement préparé. Mais alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est l'homme d'un système. Il applique les recettes de son père et il est imbu de cette mentalité du clan Assad que le pays lui appartient. Les Syriens sont comme les serfs dans un grand domaine russe, de l'Empire au XIXe siècle. Et j'interprète personnellement ce qu'on appelle le printemps de Damas comme le fait qu'il avait tellement confiance dans la servilité de ce petit monde qu'il a cru qu'il pouvait ouvrir un peu les fenêtres, donner un peu d'oxygène et que les gens lui en seront reconnaissants, si vous voulez. Lorsqu'il s'est aperçu qu'au contraire, le peu de liberté d'expression qu'il leur avait accordé pour critiquer le système, il a été choqué. Il a pris cela pour un manque de loyauté, une révolte inacceptable, alors que le maître avait bien voulu aménager un tout petit peu les conditions du servage. Et l'ayant fréquenté, je peux vous dire que c'est ça sa psychologie, c'est la psychologie d'un chef alaouite qui viscéralement considère que le pays lui appartient. Et évidemment, ce qui est troublant, c'est que c'est dissimulé par ce vernis d'occidentalisme et ces bonnes paroles qu'il est capable de prodiguer vis-à-vis de ses interlocuteurs étrangers.
Thomas Pierret, Bachar el-Assad est issu donc de la minorité alaouite qui représente 10% seulement de la population. Comment a-t-il géré dès le début ses relations, au début tout au moins, ses relations avec les minorités chrétiennes et druzes d'une part et avec les religieux de la majorité sunnite d'autre part?
Alors, je dirais que dans les trois cas, en fait, on a des configurations différentes, hein, donc on peut pas généraliser. Je dirais qu'avec les chrétiens, on a une relation qui est relativement simple, en ce sens que le régime, évidemment, joue depuis très longtemps sur l'image de protecteur des minorités chrétiennes, puisqu'il sait que c'est un discours qui est extrêmement porteur dans les pays occidentaux. Vu la focalisation des Occidentaux sur la question de ce qu'ils appellent les chrétiens d'Orient. Il faut rappeler aussi que les chrétiens sont quand même une toute petite minorité en Syrie. Hein. Selon les études démographiques les plus récentes, on parle de 4 à 5 % de la population avant la guerre de 2000 qui a commencé en 2011. Et par ailleurs, c'est une population qui est un peu éparpillée à travers le pays. Qui est absolument pas perçue comme une menace potentielle, je dirais, par le régime. Et donc, on est vraiment dans une relation de protection au sens quasiment mafieux du terme, hein, si vous voulez. Les Druzes, c'est assez différent. Il y a une histoire d'antagonisme entre l'élite militaire alaouite et la communauté druze. Une des grandes purges des années 60 a visé les officiers druzes. Et les Druzes, je pense, ne sont pas du tout perçus par le régime comme une communauté qui lui serait acquise par défaut. On l'a d'ailleurs bien vu pendant la guerre après 2011, c'est-à-dire que les Druzes ont été très divisés. On a eu des milices druzes pro-régime, des milices druzes plus ou moins anti-régime. Donc voilà, c'est une situation beaucoup plus complexe. Alors les sunnites, là, qui est la question que j'étudiais plus en détail. C'est une relation extrêmement complexe, en ce sens qu'il y a une sorte de reconnaissance de l'islam sunnite comme une forme de religion d'État. Alors, il ne l'est pas officiellement ou constitutionnellement, mais dans la pratique, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que lors des grandes fêtes religieuses, le président Assad, Hafez ou Bachar, va prier dans une mosquée sunnite en compagnie d'hommes de religion sunnite. Donc finalement, se comporte comme s'il était sunnite. Et en même temps, il y a une méfiance extrêmement profonde et viscérale du régime vis-à-vis de l'élite religieuse sunnite, y compris des hommes de religion sunnite les plus loyaux en apparence, parce qu'il y a évidemment conscience que ce sont les leaders de la communauté majoritaire, de la communauté qui est très largement exclue des leviers réels de pouvoir au sein du régime, c'est-à-dire l'armée et des services de renseignement. C'est la menace principale sur le régime. Et ceux qui, je vais terminer par là, mais je veux dire, les hommes de religion qui sont ceux qui manient le discours religieux, les symboles de la religion sunnite, ce sont ceux qui sont potentiellement capables d'unir les sunnites syriens à travers ce discours et cette symbolique religieuse, donc de les unir par-delà leurs très nombreuses divisions, parce qu'il n'y a évidemment pas une communauté sunnite homogène en Syrie. Il y a des divisions de région, il y a des divisions de classe, il y a des divisions d'orientation doctrinale, etc.
Michel Duclos, brièvement, avant qu'on fasse une pause, quand vous étiez en poste en Syrie, vous avez eu l'impression que le pouvoir jouait avec le feu sur la question religieuse. Pourquoi ?
Vous arrivez, vous êtes abu de l'idée que c'est un pays laïque, et vous découvrez que le président passe son temps à cultiver les religieux. Et comme dans d'autres pays de la région à cette époque, le pouvoir politique a plus ou moins abandonné la société, les services sociaux aux hommes de religion. Ils se concentrent sur le pouvoir purement politique, mais la société est devenue très influencée par les hommes religieux. Et donc il y a ce couple entre le palais et la mosquée, qui est l'essentiel de ce qui reste de vie politique. Et il joue avec le feu parce que il cherche à introduire une influence chiite qui déplaît beaucoup aux sunnites. Il cherche à se conciliier les oulémas sunnites, mais il joue certains contre d'autres. Et donc, il se perd dans ses intrigues sans voir que le pays réel lui échappe.
Michel Duclos, Hala Khonmani, Thomas Piret, on va se quitter le temps d'un nouveau journal sur RFI. On se retrouve dans 10 minutes pour continuer à débattre des 20 ans au pouvoir de Bachar el-Assad. géopolitique.
Chantal Leroux.
Bienvenue si vous nous rejoignez pour la seconde partie de Géopolitique. Quel bilan tirer des 20 ans au pouvoir de Bachar el-Assad après 9 ans de guerre civile? Le président syrien est-il toujours incontournable ou est-il devenu l'otage de ses alliés russes et iraniens? On en débat avec Hala Khodmani, grand reporter à Libération, Michel Duclos, ancien ambassadeur de France à Damas, et Thomas Pierret, chercheur à l'IREMAM. Hala Khodmani, quand la contestation pacifique éclate à Deraa en mars 2011, les forces de l'ordre ouvrent le feu sur la foule. Pourquoi Bachar el-Assad a-t-il choisi immédiatement la manière forte et de plonger en fait son pays dans la guerre civile?
Je crois que c'était inscrit complètement dans sa mentalité. Il n'était absolument pas tolérable, de son point de vue, qu'il y ait la moindre contestation. Faut pas oublier que ça avait commencé, il y avait eu la Tunisie, l'Égypte, la Libye, le Yémen, tous ces révoltes ont commencé à côté et ils s'étaient préparés. Il était clair que là, ils avaient pris la résolution, tout le régime, que ça se passerait pas comme ça. Il était hors de question de mettre en danger le régime. La répression était le choix absolument automatique et indiscutable.
Michel Duclos, quel a été selon vous le tournant de cette guerre civile qui dure depuis maintenant 9 ans ?
Ah, il y a eu plusieurs tournants, bien sûr. Mais évidemment, le fait que les Occidentaux ont renoncé à procéder à des frappes en 2013 à la suite de l'utilisation des armes chimiques par le régime, ça a été symboliquement très important. Alors on dit bien sûr si on avait frappé, ça n'aurait pas fondamentalement changé les choses, etc. On n'en sait rien. Le fait est que la non-action a profondément modifié la psychologie. Les gens du pouvoir ont compris qu'ils pouvaient y aller sans limite, qu'il n'y aurait pas de réaction de l'Occident. L'opposition armée, qui était modérée ou pro-démocratique, s'est sentie trahie, a été découragée. De surcroît, c'est intervenu à quelques mois après l'irruption du Hezbollah à la bataille d'Al-Qusair. Et donc, l'opposition armée a compris cette fois beaucoup plus qu'avant le caractère confessionnel que prenait le conflit. Et peu à peu, on a vu les observateurs qui allaient encore un peu au Syrie à ce moment-là, ont vu les combattants porter la barbe. Parce que il était clair que le vent tournait du côté des islamistes, si on voulait résister au régime, et que les Occidentaux avaient abandonné l'opposition syrienne.
Thomas Pierret, vous pensez que c'est l'erreur majeure de la présidence Obama, ce fait d'avoir reculé alors qu'il avait promis d'intervenir militairement si le régime syrien franchissait la ligne rouge, c'est-à-dire utilisait des armes chimiques contre son propre peuple, ce qu'il a fait dans la Ghouta notamment. Il faut peut-être rappeler le bilan, hein, 1400 morts, dont 426 enfants. Donc au dernier moment, Barack Obama a reculé. François Hollande, qui était prêt à suivre les Américains, ne pouvaient pas y aller tout seuls. Est-ce que ça, c'est effectivement l'erreur ou le recul qui a changé le cours des choses?
Je suis parfaitement d'accord avec ce qui a été dit par Michel Duclos et je pense notamment qu'effectivement l'importance de cette indécision américaine concerne moins les aspects strictement militaires, c'est-à-dire l'impact militaire qu'aurait eu des frappes, que la perception des acteurs. Est-ce que ça a pu changer de manière indirecte? Il faut rappeler par exemple que 3 mois après le massacre chimique de la Ghouta, c'est le moment où le régime commence sa campagne de bombardement qui vise à dépeupler la partie orientale d'Alep. Il y avait bien sûr des bombardements aériens contre Alep, mais à partir de décembre 2013, on est dans une stratégie de bombardement d'une violence inouïe qui va littéralement dépeupler la partie d'Alep qui est contrôlée par l'opposition. Je pense aussi que l'attitude d'Obama a eu un impact très très fort sur la perception du conflit par les Russes. Je suis pas du tout certain qu'en 2013, les Russes imaginaient pouvoir intervenir en Syrie comme ils l'ont finalement fait en 2015. Ils ont compris avec cette attitude d'Obama que la voie était libre, qu'il y avait un vide stratégique qu'ils pouvaient remplir. Et ils l'ont compris à ce moment-là.
Hala Khodmani, l'intervention militaire russe qui démarre donc en 2015, les Russes appuyés au sol par les Iraniens, c'est le deuxième tournant de la guerre?
C'est certain, parce que à ce moment-là, et malgré l'abandon occidental dont Michel Duclos et Thomas Pierret viennent de parler, sur le terrain, à nouveau, les forces du régime sont en très grande difficulté. Et c'est à ce moment-là, en effet, que Poutine décide d'intervenir massivement, directement, sur le terrain, ce qui a complètement changé la donne et qui a ouvert la voie à une reconquête du territoire par les forces du régime, les forces pro-régime, parce que c'était essentiellement des milices pro-iraniennes venant d'Irak ou d'Iran ou du Liban qui se battaient sur le sol, parce qu'il manquait d'hommes, il manquait surtout de motivation, il y avait une grosse fatigue chez les forces du régime. Alors, ça a été un tournant durable, parce que les Russes qui ont permis cette reconquête territoriale et politique, il y a eu un accompagnement diplomatique formidable auprès de la communauté internationale, c'est-à-dire en bloquant toute résolution de l'ONU, je ne compte plus les vétos de la Russie à chaque résolution, que ce soit pour un cessez-le-feu ou pour des sanctions, etc. Et à la fois pour la situation syrienne, que même pour Poutine lui-même, hein, qui s'est à ce moment-là réimposé grâce au dossier syrien comme vraiment un maître du jeu et qui a complètement bouleversé la donne, c'est certain.
Thomas Pierret, est-ce que la coalition internationale a fait une erreur en concentrant à ce moment-là ses efforts sur la lutte contre Daesh plutôt que la lutte contre l'armée syrienne et ses alliés ?
Je pense que l'erreur, ça a été de ne pas profiter du fait que l'on intervenait désormais en Syrie, hein, donc à partir de l'été 2014, contre l'État islamique. Donc l'erreur, c'est de ne pas en avoir profité pour aussi, dans la foulée, protéger les zones tenues par l'opposition des bombardements du régime. Ce qui aurait, je rappelle que l'été 2014, il n'y a pas de Russes en Syrie. Et que donc, d'un point de vue purement technique et militaire, il n'est pas très compliqué pour l'aviation américaine d'empêcher l'aviation du régime, qui est extrêmement ancienne et plutôt en mauvais état, vu l'intensité de son utilisation. Enfin, il n'aurait pas été très compliqué de la clouer au sol. Je pense que l'erreur était là.
Michel Duclos, Bachar el-Assad s'est présenté aux Occidentaux comme un rempart contre les islamistes. Est-ce qu'on peut rappeler quand même quel jeu il a joué avec les islamistes, et notamment les islamistes qui étaient emprisonnés dans les geôles syriennes et qu'il a fait libérer des hommes qui sont ensuite allés renforcer les rangs du groupe État islamique.
Dès 2012, donc, il libère des prisons, pas uniquement des islamistes, c'est pas n'importe quel islamiste, c'est ceux qui ont le profil de devenir des leaders, et ce qui s'est produit. Hein, c'est souvent les chefs, soit de Daesh, soit d'autres groupements, sont issus des prisons de Bachar. Mais ce qu'il faut bien avoir, c'est que c'est pas du tout une innovation. C'était une technique que ce régime a pratiquée depuis longtemps, qu'il a pratiquée à la fin des années 70, au début des années 80, lors de la première guerre civile. Donc, si vous voulez, cette façon d'utiliser les djihadistes ou les radicaux islamistes pour se donner le rôle d'être ceux qui luttent contre l'islamisme, cette espèce de pompier pyromane ou de pyromane pompier, c'est une recette traditionnelle du régime syrien.
Rala Khodmani, vous êtes d'accord, les Occidentaux se sont fait duper à ce moment-là?
Je ne dirais pas duper, hein. En même temps, ils n'avaient pas de stratégie. Il y a eu un désengagement occidental absolument spectaculaire. Quand on a parlé tout à l'heure de l'intervention russe, c'est parce que bon, la voie était libre. Alors le côté régime laïque, maintenant, il faudrait aller plus loin, parce que c'est vrai que les Occidentaux, la France en particulier, pour qui la laïcité compte peut-être plus que pour d'autres pays européens notamment, maintenant on a l'opposition laïque islamiste, et quelque part on a une opposition laïque démocratie. C'est-à-dire on préfère un laïque dictateur qu'un islamiste à la limite ouvert. L'histoire du laïque devient... et est ressenti par beaucoup de Syriens quand ils entendent ce discours. Ah oui, mais il est laïque. C'est presque une agression, quoi. Et je crois que c'est très mauvais pour la laïcité, en tout cas, de prendre le régime syrien comme laïque.
Michel Duclos, même si ses alliés russes et iraniens ont permis à Bachar el-Assad de reprendre progressivement le terrain perdu, est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas devenu l'otage, en quelque sorte, de Moscou et de Téhéran ?
Il est l'otage, il a vendu son pays pour rester sur un tout petit bout de pouvoir qui lui reste. Là aussi, il faut bien voir le logiciel, si vous voulez, de ce clan, de cette famille, gagner, c'est survivre un jour de plus. Et dans l'histoire personnelle d'Assad, parce que c'est le produit d'un système, mais il a quand même une équation personnelle, c'est quelqu'un qui croit à son étoile, puisque c'est son frère qui était programmé, et que par ailleurs, il a survécu à d'immenses crises dans lesquelles beaucoup d'autres auraient été engloutis. Donc il pense qu'il va s'en sortir, et que tant qu'il garde cet appareil des services secrets, des Mouradarat, un peu l'appareil militaire, il attend des jours meilleurs, et il est persuadé qu'un jour ou l'autre, il reprendra le contrôle de la situation.
Khala Khodmani, la situation en Syrie est désastreuse, notamment au point de vue économique et humanitaire, après 9 ans de guerre civile. Est-ce que la population, qui n'a plus grand-chose à perdre, pourrait à nouveau se soulever, ou est-ce qu'elle est trop épuisée pour le faire ?
Alors, celle qui s'était soulevée est très épuisée, mais ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de voir que ce sont les partisans du régime, c'est-à-dire même sa base, dans les zones côtières, dans les zones alaouites, ceux qui se sont battus, qui ont sacrifié, qui ont perdu leurs enfants, etc. C'est de là que la rage contre le régime est la plus forte ces derniers temps. Parce que ils s'aperçoivent tout d'un coup que ils ont été quelque part dupés. La situation des Syriens aujourd'hui, économiquement, c'est un désastre absolu, qui a été aggravé aussi par la crise libanaise, parce que tous les Syriens qui avaient un peu d'argent étaient dans les banques libanaises. Et il y a la corruption évidente. Aujourd'hui, le coronavirus qui fait des ravages. Et donc, on a toute une population qui était complètement, même la population qui était complètement acquise au régime. J'ai même connu quelqu'un qui m'a dit récemment, quelqu'un qui a toujours défendu le régime, qui m'a dit « Ah, c'est maintenant qu'il vous faut faire une révolution ».
Thomas Pierret, vous aussi vous pensez qu'il y a des signes d'une peut-être d'une future nouvelle insurrection quand on voit des slogans anti-Assad fleurir sur les murs de villes alaouites, par exemple, ou alors dans l'enclave druze de Souaïda?
Je serais peut-être un peu moins optimiste en ce sens que, bien sûr, il y a un mécontentement très fort chez les alaouites, mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait un potentiel, je dirais, de dynamique de protestation transcommunautaire. C'est-à-dire, pour le dire simplement, une alliance entre ces protestataires alaouites et la population sunnite. Parce que c'est ça qui pourrait menacer le régime. Et ça, je n'y crois pas beaucoup, tout simplement parce que les clivages communautaires ont tout simplement été terriblement approfondis par le conflit. Ce que je constate, par exemple, c'est que certaines voix alaouites plus ou moins contestataires, y compris des députés du Parlement, par exemple, ou anciens députés qui ont formulé un certain nombre de critiques contre le régime, pour certains d'entre eux, étaient aussi des gens qui étaient dans une posture vraiment de fermeture confessionnelle alaouite, avec un discours sur les sunnites qui était extrêmement virulent. Je dirais tous sunnites plus ou moins religieux étant désignés comme un suppôt de Daesh, etc. Et je pense quand même que ça, c'est quelque chose qui est profondément ancré dans la société syrienne, cette polarisation confessionnelle aggravée par le conflit de la dernière décennie. Et j'ai peine à croire que ça puisse être dépassé, d'autant plus que s'il venait à y avoir des mouvements de protestation importants, par exemple dans les zones côtières, le régime aurait beau jeu d'organiser des provocations et d'encourager la recristallisation de cette polarisation confessionnelle pour empêcher une quelconque alliance. Donc je suis malheureusement pas très optimiste sur ce plan-là.
Michel Duclos, reconstruire la Syrie va coûter très cher, de 250 à 400 milliards de dollars, ce sont les estimations. Ni la Syrie, ni ses alliés russes et iraniens n'ont les moyens de financer cette reconstruction. Est-ce que les Occidentaux, là, ont une carte à jouer, ou est-ce qu'ils sont hors jeu pour longtemps en Syrie ?
On ne peut pas dire complètement qu'ils n'ont pas une carte à jouer, mais il faut quand même placer les choses en perspective. Les Russes n'ont pas pour la reconstruction de la Syrie un attrait fantastique, si vous voulez, c'est pas ça leur problème. Ils utilisent le mot parce qu'ils savent que ça impacte les Occidentaux, mais ils n'ont pas le logiciel qui correspond à cela. Ce qui les intéresse, c'est d'avoir des contrats pour servir leurs entreprises, exploiter le phosphate, l'énergie, etc. Et quant à Assad lui-même, même quand il était au sommet du contrôle de son pays, lorsqu'il a fait l'ouverture économique, et c'était surtout pour améliorer la position de sa famille ou de ses alliés dans le monde des affaires. L'idée qu'il y a un impératif catégorique de remonter le pays n'entre pas du tout dans sa mentalité. Donc, ce qui peut se passer de mieux en termes de scénario, c'est qu'à l'intérieur du régime se produisent des étapes dans lesquelles, à un moment donné, un comité militaire se substitue à Assad pour une raison qu'on ne voit pas pour l'instant, mais qui pourrait intervenir un jour ou l'autre et qui serait facilitée par les Russes. Alors à ce moment-là, avec un autre type de pouvoir, même si ce pouvoir reste à la 8, peut-être que la question de la reconstruction du pays peut offrir une possibilité d'action aux Occidentaux, mais pour l'instant, je ne vois pas du tout les conditions réunies. J'ajoute que mettre de l'argent pour l'instant en Syrie, ça veut dire enrichir les exploiteurs du système, les vainqueurs de la guerre civile et de la corruption généralisée. Donc aucun gestionnaire occidental un peu rationnel ne ferait ça.
Alors à propos de symboles de la corruption, Hala Khodmani, la mise à l'écart par Bachar al-Assad de son cousin, Rami Mahlouf, considéré comme l'homme le plus riche du pays, détesté par la population, comment faut-il l'interpréter selon vous ?
Oh, il faut l'interpréter essentiellement comme un phénomène de réduction du gâteau syrien. C'est devenu tellement réduit qu'il n'y a pas suffisamment à partager quand Rami Mahlouf, qui est le cousin germain qui a tenu toutes les affaires du pays pendant 20 ans ou plus, on s'entendait bien avec Bachar, que tout allait bien, qu'on partageait, il y avait suffisamment d'argent à collecter pour que chacun en profite un maximum, ça allait. Là, on a de moins en moins de ressources, de moins en moins d'argent, plus des querelles personnelles, je crois, entre Madame Asma al-Assad et qui veut, elle, assurer l'avenir de ses enfants et qui veut se rentrer dans les affaires, dans les petites affaires. Ça devient ridicule, hein. On est en train de se disputer pour des toutes petites choses qui probablement au niveau de l'enrichissement individuel comptent, mais ça ne représente plus du tout ce que la part que Rami Mahlouf a pu avoir. Mais ça a été un élément quand même. Cette brouille entre les deux associés, ils étaient plus qu'associés. C'est un élément de fragilisation du régime, y compris dans la communauté alaouite, qui est un petit peu partagée entre les deux.
Dernière question, brièvement à tous les trois. Est-ce que la présidentielle de 2021 est jouée d'avance ? Est-ce que Bachar al-Assad reste incontournable ? Thomas Pierret ?
Je pense qu'elle est jouée d'avance, enfin pas parce qu'Assad est incontournable, mais parce qu'il fera en sorte qu'on ne puisse pas organiser des élections dignes de ce nom dans le pays. Il y aura peut-être des candidats d'opposition, mais qui seront une opposition factice. Je veux dire, il est tout à fait invraisemblable d'imaginer que des candidats d'opposition aient la possibilité d'organiser une véritable campagne électorale dans les mois qui viennent.
Hala Khodmani ?
Je crois qu'elle ne dépend pas seulement des Syriens, et surtout pas des Syriens. La réélection de Bachar al-Assad, il va être remis parce que les Russes n'auront pas trouvé d'alternative, même s'ils ne l'aiment pas beaucoup, et qu'il reste complètement le symbole de comment la Russie, quand ils soutiennent quelqu'un, ils savent le faire jusqu'au bout et il tient en place.
Michel Duclos ?
Je pense comme Thomas Pierret. Cependant, j'ajouterais que, en fait, pour Assad, les problèmes commenceront après sa réélection, parce que les Russes auront marqué le point qu'ils voulaient, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de changement de régime, que leur poulain a été remis en selle, et à ce moment-là, ils feront leur compte et ils verront s'il leur est vraiment utile.
Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été les invités de Géopolitique. Michel Duclos, ambassadeur de France à Damas de 2006 à 2009, aujourd'hui conseiller spécial à l'Institut Montaigne. J'invite nos auditeurs à lire La longue nuit syrienne, 10 années de diplomatie impuissante, paru l'an dernier aux éditions de l'Observatoire. Thomas Pierret, chargé de recherche à l'IREMA à Aix-en-Provence. Votre livre Basse et Islam en Syrie, la dynastie Assad face aux oulémas, paru au PUF en 2011, est un ouvrage qui fait référence. Hala Khodmani, grand reporter au journal Libération, fondatrice de l'association Souria Houria, Syrie Liberté. Vous avez publié en 2017 Seul dans Raqqa aux éditions Équateur, le journal de bord et le combat de Nissan Ibrahim, cette jeune femme syrienne musulmane résistante, exécutée par Daesh à 30 ans. Merci à Victor Hull qui a réalisé cette émission et à Yael Co qui m'a aidé à la préparer. Bonne semaine à tous et portez-vous bien.